bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection votre Europe, une émission sur les idées reçues sur l'Europe avec Tania Rachon. L'émission est réalisée par Léobardo Arango en partenariat avec les Surligneurs, Amicus et l'Observatoire du Green Deal de l'Université Paris-Saclay, justement pour une série spéciale sur le Green Deal présentée par les étudiantes de l'Université Paris-Saclay.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Le pacte vert européen, c'est un sujet qui est discuté au sein de l'Union européenne depuis déjà 2019 et qui en réalité touche de nombreux sujets liés à l'environnement. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il serait intéressant d'en faire plusieurs épisodes pour mieux décrypter les enjeux de ce pacte vert. Dans cet épisode, les étudiantes Clara Lévy, Jessica Olowolagba, Anna-Isabelle Caranza-Vasquez, Lilia Ziata et Maëlys Perardo-Alouane vont vous présenter donc les dessous de la diplomatie climatique européenne. Ensemble, elles vont tenter de répondre à une question cruciale. La COP30 a-t-elle renforcé ou au contraire fragilisé la crédibilité du pacte vert sur la scène internationale ?
L'Europe, l'Europe, l'Europe !
So my message is very clear. Europe is staying the course.
Pour commencer, revenons à un moment clé. En 2019, Ursula von der Leyen déclarait « Notre défi le plus pressant était la protection de la planète ». Est-ce qu'il s'agissait simplement d'un discours politique ou d'un véritable tournant pour l'Union européenne ?
Ce n'est pas qu'une déclaration symbolique. Cette phrase annonçait le lancement du Pacte vert européen, une stratégie globale visant à transformer profondément l'économie de l'Union. L'objectif est clair, atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, c'est-à-dire de parvenir à un équilibre entre les émissions de carbone et la capacité du territoire européen à les absorber.
En effet, les filles, face à l'urgence climatique, l'Union européenne présente le pacte vert comme une solution à la fois écologique et économique. Mais est-ce que cette vision reflète véritablement un consensus ?
Pas totalement. Certes, l'UE s'est fixé des objectifs intermédiaires pour 2030, tels que la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Pour y parvenir, elle prévoit d'investir entre 1 et 2% de son PIB dans l'économie verte. Mais certains États membres s'inquiètent des coûts économiques et sociaux de cette transformation.
Il ne faut pas oublier les élections européennes de 2024, qui ont modifié l'équilibre politique du Parlement et ont marqué un recul de l'élan écologique. L'affaiblissement des forces écologistes et le renforcement des groupes conservateurs ont évidemment rendu plus difficile la formation de majorité en faveur de mesures plus ambitieuses relatives au pacte vert, au profit de priorités liées à la compétitivité, à la souveraineté énergétique et aux revendications agricoles.
Oui, Clara. Autrement dit, le pacte vert n'est pas seulement un projet environnemental, c'est aussi un choix politique structurant. Pourquoi représente-t-il un tournant majeur pour l'Union européenne ?
Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple politique environnementale. L'Union européenne a fait du climat un pilier central de son action politique. Le pacte vert promet une transition écologique porteuse de croissance. Un environnement plus sain, une énergie plus abordable, des transports plus intelligents et la création de nouveaux emplois. Pour l'Union européenne, qui s'est vue à la fois leader climatique et acteur normatif mondial, l'enjeu est double. Réussir la transition interne tout en prouvant que son modèle est exportable et capable d'influencer le choix des autres puissances.
Et c'est précisément là que la question dépasse le cadre européen. Si l'Union européenne se veut leader climatique mondial, où est-ce que cette ambition est-elle réellement mise à l'épreuve ?
La réponse, Jessica, se trouve dans les COP, ou plus précisément nommées les conférences des parties. Chaque année, les États parties s'y retrouvent pour évaluer leur engagement, négocier de nouvelles mesures et ajuster leur trajectoire. Depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015, les COP jouent un rôle central. Elles permettent de suivre les engagements nationaux de réduction des émissions, ainsi que d'exercer une pression diplomatique afin d'ajuster l'ambition collective.
Dans ce contexte, chaque engagement international, chaque sommet climatique devient un révélateur de la cohérence ou des contradictions de l'action européenne. Le pacte vert européen ne peut exister en vase clos. Sa crédibilité dépend aussi de sa capacité à s'inscrire dans la gouvernance climatique mondiale. Et c'est dans cet intérêt que la COP30 apparaît alors comme un test majeur pour la crédibilité internationale du pacte vert. Dès lors, une question s'impose. La COP30 a-t-elle renforcé ou fragilisé la crédibilité du pacte vert sur la scène internationale ?
C'est une question intéressante, Clara. Et pour y répondre, il ne faut pas oublier que cet événement qui est tenu à Velem, au Brésil, en novembre 2025, a été un moment clé pour la diplomatie climatique mondiale. Mais au-delà de son aspect général, elle a eu une résonance particulière pour la crédibilité internationale du Pacte vert européen.
C'est une excellente introduction, les filles. Pour bien comprendre les enjeux de cette COP30, il est essentiel de poser le cadre des débats. Nous allons donc, dans un premier temps, définir qu'est-ce que l'institution des COP, puis nous pencher sur les spécificités de cette 30e édition, et enfin, analyser la place qu'occupe le Pacte vert européen dans l'ensemble de ces négociations.
Exactement, Lilia. Tout commence réellement avec la création de la COP, issue du sommet de la Terre de Rio en 1992. Elle constitue en effet l'organe décisionnel suprême de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis la toute première édition à Berlin, en 1995, cette instance se réunit chaque année pour définir une stratégie commune face au dérèglement climatique.
Effectivement, c'est d'ailleurs ce qui en fait un rassemblement unique. On y retrouve les représentants des États signataires, mais aussi un espace où dialogue une grande diversité d'acteurs de la société civile, comme les ONG, les entreprises et les syndicats. L'objectif fondamental, c'est de faire progresser la lutte pour le climat, en vérifiant concrètement que les pays respectent bien leurs promesses.
Tout à fait, Jessica. Lors de ces sommets, les participants négocient de nouveaux engagements et précisent les règles techniques pour rendre les accords plus efficaces. C'est vraiment le moment clé pour maintenir une pression politique internationale et décider ensemble de mesures concrètes pour limiter le réchauffement de la planète. Si l'on regarde le chemin parcouru depuis la COP21 à Paris en 2015, on voit qu'une étape décisive a été franchie avec cet objectif chiffré. Maintenir l'élévation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5.
C'est les socles. Mais il faut admettre que les COP suivantes ont révélé des avancées contrastées. En 2022, la COP27 a tout de même permis la création d'un fonds pertes et dommages au bénéfice des pays les plus vulnérables. Puis, en 2023, la COP28 a marqué l'histoire en reconnaissant explicitement, pour la première fois, la nécessité d'une transition hors des énergies fossiles. Pourtant, ces évolutions sont encore jugées insuffisantes face à l'urgence, ce qui a conféré une importance toute particulière à la COP30. N'est-ce pas, Lilia ?
Bien sûr, Anna. La COP30 a effectivement une portée symbolique et stratégique majeure. Sa tenue à Belém, qui est la porte d'entrée de l'Amazonie, a placé la préservation des forêts et de la biodiversité au cœur des discussions. Ce choix géographique n'est pas neutre. Il souligne le rôle crucial des écosystèmes forestiers dans la régulation climatique et met en lumière la responsabilité, mais aussi la contribution essentielle des pays du Sud.
Et les filles, n'oublions pas que 10 ans après l'accord de Paris, cette conférence a été le théâtre du premier bilan mondial, le fameux Global Stocktake. On peut vraiment comparer ce mécanisme à un conseil de classe planétaire, une évaluation collective des efforts fournis par les États depuis 2015. Dans ce contexte, l'Union européenne a cherché à se présenter comme un acteur exemplaire en mettant en avant son fameux pacte vert.
Et c'est un point central. Le pacte vert est présenté à la fois comme une stratégie de croissance durable, visant la neutralité carbone à l'horizon de 2050, et comme un modèle exportable de régulation climatique. Il dépasse donc le cadre interne de l'Union pour devenir un instrument structurant de sa politique extérieure. L'Union ne se limite donc plus à réduire ses propres émissions, elle veut diffuser ses standards à l'échelle internationale.
Et c'est ce qu'on appelle souvent l'effet Bruxelles. Cela consiste à conditionner l'accès au marché européen au respect des normes environnementales élevées. La réglementation sur la déforestation importée en est l'illustration emblématique. À Belém, au cœur de l'Amazonie, l'Union a dû défendre fermement l'idée que la protection des forêts n'est pas une barrière commerciale déguisée, mais une exigence environnementale légitime et nécessaire.
Cependant, pour que cette posture soit crédible, l'Union européenne doit être cohérente en interne. À la veille de la COP30, les ministres européens de climat sont parvenus, après des négociations difficiles, à un compromis fixant un objectif de réduction des émissions, compris entre 66,25% et 72,5% d'ici 2035. On sait que c'est moins ambitieux que la réduction de 90% initialement recommandée par la Commission.
C'est vrai, Anna. Cet accord reflète les contraintes économiques et politiques de certains États membres. C'est un compromis minimal au regard des échéances de 2035 et 2040. Néanmoins, cela a permis à l'Union de se présenter avec une position commune et d'éviter l'image d'une paralysie interne. Arriver sans engagement chiffré aurait été perçu comme un signe d'impuissance politique et aurait entaché la crédibilité européenne.
en obtenant cet accord, même en dessous des recommandations scientifiques, l'Union a préservé sa capacité à revendiquer un rôle de leader. Elle a aussi rappelé son statut de premier contributeur mondial au financement climatique, avec environ 28,6 milliards d'euros mobilisés en 2023. Elle affirme ainsi son intention de maintenir cet effort pour soutenir la transition globale.
Enfin, pour ne pas rester isolée face aux grandes puissances émettrices ou aux États producteurs d'énergie fossile, l'Union anime la coalition pour une haute ambition. Elle y regroupe des petits États insulaires, exposés à la montée des eaux, et plusieurs pays africains à la COP30. La réussite du Pacte vert s'est donc aussi mesurée à sa capacité à demeurer le porte-voix des États les plus vulnérables.
Vous venez d'écouter « Ode de joie » de Beethoven, l'hymne européenne, ici dans une version remixée par Chris Justen. Est-ce que ça vous plaît, les filles? Est-ce que vous avez bien aimé ce morceau?
Bien sûr.
Excellent.
C'est un bon choix.
Oui, super.
L'Europe, l'Europe, l'Europe!
Alors, la COP30 s'est déroulée dans un moment particulièrement délicat pour l'Union européenne. Alors que le pacte vert constituait la priorité numéro 1 du premier mandat d'Ursula von der Leyen, il apparaît aujourd'hui relégué au second plan, depuis son renouvellement à la tête de la Commission, ce qui est hyper dommage. Avant même l'ouverture de la COP, plusieurs signaux montraient que l'UE avait commencé à réviser à la baisse ses ambitions. Par exemple, 80% des entreprises pourraient être exemptées de leurs obligations de reporting durable. Dans le secteur automobile, l'Allemagne et l'Italie remettent en cause l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, au profit des carburants de synthèse. La neutralité carbone, elle, est repoussée vers 2060 et les objectifs intermédiaires de réduction des émissions ont été assouplis, notamment avec l'autorisation de recourir à 5% de crédit carbone.
Mon Dieu.
Comme tu viens de le dire, Clara, c'est un moment de tension interne dans l'Union européenne. Mais en même temps, la crédibilité du Pacte vert était aussi mise à mal par la contestation croissante de ses instruments économiques. Dans ce sens, le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pourtant essentiel à la transition et à la compétitivité industrielle européenne, se heurtent à une opposition frontale des États-Unis, de la Chine et des Landes. La COP30 a même confirmé la formation d'une coalition des pays émergents hostiles à ces mécanismes. Mais l'Union européenne peine à déployer suffisamment vite les énergies renouvelables et souffre d'une crise de mise en œuvre de ses propres directives. C'est pour ça, les filles, on voit apparaître un trilemme difficile. Ambition climatique, autonomie stratégique et compétitivité, sans qu'un cadre clair ne permet d'arbitrer entre ces objectifs.
Effectivement.
Mais oui, Anna, mais oui, Maëlys, c'est précisément dans ce contexte qu'il faut replacer l'arrivée de l'Union européenne à la COP30. Ce n'est pas la première fois qu'une COP débouche sur des avancées importantes.
C'est vrai.
La réduction progressive du charbon à la COP26, le fonds pertes et préjudices de la COP27, l'appel à une sortie progressive des énergies fossiles à la COP28, ou encore, comme vous le savez peut-être, le nouveau cadre de financement adopté à la COP29.
Bah, ça fait beaucoup là.
Ouais, exactement. Mais cette fois-ci, le bilan est plus mitigé, attention. Faut pas oublier, les 194 pays réunis à Belém se sont contentés d'augmenter le financement de l'adaptation sans prévenir à instaurer une feuille de route contraignante pour la sortie des fossiles. Ce qui est assez dommage en réalité.
Effectivement, très mitigé. C'est précisément ça, Lilia. Et l'Union européenne espérait pourtant revenir forte après une année compliquée comme on a pu le voir en interne. Elle voulait prouver qu'elle pouvait encore incarner un leadership climatique. Mais la réalité du rapport de force s'est avérée assez différent. L'absence des États-Unis a laissé le champ libre à une coalition des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ils étaient déterminés à freiner toute ambition sur les fossiles. De plus, les Européens eux-mêmes étaient divisés. À plusieurs reprises, ils n'ont pas été capables de soutenir collectivement des propositions ambitieuses, comme on a pu le voir. 10 États membres, parmi lesquels la Grèce, la Hongrie, l'Italie ou la Pologne, ont bloqué certaines initiatives.
Dommage.
Et ça, on a pu le voir auparavant. Un négociateur européen a même reconnu que l'Union avait, je cite, « sous-estimé les BRICS et surestimé sa force ».
Et c'est tout ça qui pose la vraie question en réalité pour laquelle on est là aujourd'hui. Dans quelle mesure la COP30 a-t-elle renforcé ou fragilisé la crédibilité du pacte vert européen ?
On veut cette réponse.
Ouais, au vu de tout ce qu'on vient de dire déjà, ça semble clair que la COP a mis en lumière un affaiblissement de l'Union. Et l'Union, elle paraît moins influente, moins unie, moins capable de porter son ambition climatique.
C'est vrai.
Ses objectifs internes ont été revus à la baisse et elle a peiné à convaincre ses partenaires internationaux. En ce sens, on voit bien que la crédibilité du pacte vert sort fragilisée.
C'est vraiment dommage.
Ouais, c'est ce qu'on voit.
Tout à fait d'accord, Jessica. Mais attention, il faut quand même un petit peu nuancer. Cette fragilisation ne signifie pas l'effondrement du pacte vert, heureusement. Elle agit plutôt comme un révélateur. La COP30 rappelle à l'Union que son leadership climatique dépend de deux conditions. Son unité interne d'abord et sa capacité à s'adapter à un monde de plus en plus multipolaire. La conférence peut donc devenir un électrochoc positif. Si l'UE tire les leçons de son isolement, renforce ses outils comme le SEQE, c'est le système d'échange des quotas d'émissions de l'Union européenne, ou le CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et réaffirme la volonté politique autour du pacte vert, elle peut, Jessica, en ressortir plus forte à long terme.
C'est vrai.
Mais c'est totalement vrai, Clara. Mais les filles, on pourrait aussi mentionner que la présidence brésilienne de la COP30 a joué un rôle... on pourrait dire ambigu. Le Brésil souhaitait concilier sa position de pays émergent, très sensible aux enjeux de développement, et son ambition de se présenter comme leader climatique. Et cette position, en vrai, médiane a conduit à un texte final moins ambitieux, qui n'a pas servi aux intérêts européens, malheureusement.
C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler.
C'est vrai, et totalement, en fait, cette question, elle est vraiment centrale. L'UE a d'ailleurs reproché au Brésil un excès de prudence vis-à-vis des BRICS. Plusieurs think tanks, comme l'Institut du développement durable et des relations internationales et Chatham House, soulignent que la diplomatie brésilienne a privilégié la cohésion du Sud global plutôt qu'un rapprochement avec les positions européennes, ce qui est assez dommage. Et donc, cela a contribué à renforcer l'impression que l'Union, elle était isolée.
C'est vrai que ça n'a pas dû leur plaire. Hein.
Ouais.
On pourrait aussi évoquer même la place croissante des enjeux agricoles dans les négociations. De nombreux pays, y compris des États membres, ont insisté sur la protection des agricultures nationales, ce qui limite donc la marge de manœuvre européenne pour intégrer pleinement l'agriculture dans le pacte vert comme ils ont toujours voulu le faire.
C'est vrai que par cela, on comprend que ça limite assez. Hein.
Oui, et tu sais même pas à quel point tu le dis bien, parce que même les chiffres de la Food and Agriculture Organization of the United Nations montrent que les émissions agricoles continuent d'augmenter dans le monde, donc c'est en roue libre. Or, l'Union européenne, elle n'a pas parlé d'une seule voix sur ce sujet. Certains pays, comme la Pologne et l'Italie, ont refusé, eux, d'adopter des positions ambitieuses. Cela a affaibli la cohérence du pacte vert dans son pilier agricole, pourtant fondamental, parce que bien qu'une union, c'est quand même plusieurs pays ensemble qui doivent parler d'une même voix.
C'est vrai, il faut avoir la même voix, sinon... Surtout face au COP, ça peut être très déstabilisant pour s'imposer.
Et en plus, ça fait une super transition avec ce que je vais vous dire là, qui est plutôt affolant. Les émissions agricoles ne sont pas les seules à augmenter dans le monde. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans les énergies fossiles ont recommencé à croître en 2023-2024, notamment en raison des tensions géopolitiques.
Oh.
Et oui, c'est affolant. Ces investissements ne concernent d'ailleurs pas n'importe quel pays, et oui, qui d'autre que l'hôte de la COP30. En effet, l'agence publique de l'environnement brésilienne, IBAMA, a en octobre 2025 autorisé un projet massif de puits d'exploration pétrolière à l'embouchure de l'Amazone.
On pourrait un peu dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Ouais,
totalement.
En fin de compte.
Donc, c'est affolant pour la faune et la flore, et c'est affolant par rapport à cette COP30 qui se tient à Belém. Et en plus, cette autorisation démontre avec force les priorités de l'État brésilien, qui pourrait, grâce à cette exploitation, se hisser parmi les 4 plus grands producteurs mondiaux de pétrole au cours des 10 prochaines années. Ce regain de mode du pétrole crée un environnement international bien moins propice au leadership climatique européen.
Absolument. Et je me souviens aussi, Clara, que l'AIE note aussi que les investissements massifs de la Chine dans les renouvelables contrastent avec le retard européen. L'Union européenne n'est plus seule à défendre la transition énergétique, les filles. Elle est dépassée en capacité industrielle, ce qui réduit l'effet d'entraînement de pacte vert sur la scène globale. Et c'est vraiment dommage pour tous les avancements des pays européens.
Et oui, Anna.
C'est clair.
Et justement, pour rajouter à ton propos, l'impact de l'inflation du Reduction Act aux États-Unis est aussi déterminant. Bah oui, le fait que Washington privilégie une politique industrielle fondée sur les subventions plutôt qu'un prix du carbone fragilise directement le modèle européen.
Ah là là, les États-Unis.
Toujours. Le pacte vert n'est plus la référence unique au niveau international.
Exactement, Lilia. Et Bruegel, un think tank européen spécialisé en économie, ou encore l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, montre que l'Inflation Reduction Act attire des industries que l'Europe peine à conserver. Cela affecte aussi la crédibilité externe du pacte vert. Comment convaincre le monde d'adopter un prix de carbone quand la première économie mondiale ne le fait même pas ?
Mais super bonne question, ça !
Ah oui, mais on devrait même surtout rappeler que la composition du Parlement européen a changé après les élections de 2024. La montée des partis conservateurs et souverainistes a rendu la majorité pro-pacte vert beaucoup plus fragile.
Ça, ça fait peur.
Mmh. Ah oui, tout à fait. Et cela explique aussi en partie les reculs internes évoqués plus tôt. Euractiv et Politico Europe ont montré que les groupes centristes sont désormais beaucoup plus prudents sur les réglementations climatiques, malheureusement. La COP30 n'a fait qu'exposer au grand jour ces tensions internes.
Oui, donc tout le monde se retire du projet, finalement.
Oh là là.
C'est une très bonne analyse, les filles. Vous ne pensez pas ?
C'est vrai, je trouve qu'on a bien analysé ça.
Pour conclure, on pourrait dire quoi ? On pourrait dire que la COP30 n'a pas renforcé la crédibilité de Pacte Vert, malheureusement. Elle a incontestablement mis à l'épreuve, en exposant les limites de l'influence européenne, ses divisions internes et les concessions qu'elle a dû accepter.
C'est tellement triste, c'était pourtant une très bonne initiative de la part de l'Union européenne.
C'était super prometteur à la base.
Mais cette épreuve peut aussi être une opportunité stratégique, les filles.
Tout à fait.
C'est vraiment une opportunité, mais il y a des conditions aussi. Il faut apprendre les leçons. L'Union européenne pourrait transformer ces moments de fragilité dans un point de départ pour consolider durablement son modèle climatique.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée de s'appuyer un peu sur les erreurs qui ont été faites préalablement pour pouvoir par la suite les transformer en force pour créer quelque chose de peut-être plus prometteur pour les prochaines COP.
Il faut apprendre pour reprendre.
Oui, il faut apprendre de ses erreurs en fin de compte.
Très beau mot de fin, merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal avec les étudiantes Lilia, Ziata, Jessica, Olowolagba, Clara Lévy, Anna-Isabelle Caranza-Vasquez et Maëlys Perardo-Alouane du Master 1 Droit International Européen de l'Université Paris-Saclay. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode spécial Green Deal sur toutes les plateformes de podcast, le site d'Amicus Radio, celui des Surlignières, de l'Observatoire du Green Deal. Et surtout, pour suivre notre actualité, eh bien, venez